Avec la profession de foi d'Israël que nous venons d'entendre lors de la première lecture et dans l'Évangile, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et voici sûrement un des plus beaux passages de l'Ancien Testament que nous propose la liturgie de ce dimanche. Et il joue encore ce jour un rôle majeur dans la religion et dans la prière juive. Au point que cette phrase « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique » deviendra la prière quotidienne des Juifs et bien sûr la prière du Christ lui-même, de sa mère et de tous ses disciples. C'est le fameux Shema Israël que l'on récite matin et soir dès l'âge de 3 ou 4 ans. Cette prière, cette profession demeure une invitation à ne jamais oublier la confession de foi de tout un peuple, afin de demeurer toujours attaché, lié à son Seigneur. Et rappelons-nous aussi que cette profession de foi se rend visible sur les portes, sur les maisons, ainsi qu'à la main des croyants et sur le front. Ce sont les fameux phylactères, ces petits cubes en cuir noir que le fidèle attache avec des lanières sur le front et sur le bras, mais toujours à hauteur du cœur. Et dans ces petits cubes sont enfermés des petits rouleaux de papier où sont inscrits, entre autres, ce fameux texte du Shema Israël. Et celles et ceux qui ont eu la chance d'aller en Terre Sainte sont toujours très émus de voir la ferveur et la foi du peuple juif, particulièrement dans les synagogues, mais surtout devant le mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem. Ainsi, la transmission de père en fils évoque aussi la survie de la foi du peuple juif qui a rejoint la vie du Christ lui-même. Et nous pouvons également aisément imaginer Saint Joseph, on ne parle pas assez de Saint Joseph, enseigner à l'enfant Jésus le patrimoine inouï de ce peuple élu, le peuple d'Israël. Et Jésus aura à rendre compte de sa foi à maintes reprises face aux scribes et aux pharisiens. Et voici justement un scribe qui s'avance devant lui. Et pourtant, cet homme ne semble pas malveillant. Au contraire, il va lui poser une question sur un sujet courant en Israël, à savoir la mise en œuvre, ou disons la pratique de la loi. Mais rappelons-nous en arrière-fond que la loi juive comptait et compte toujours à ce jour 613 commandements, rien que cela. D'où la question de cet homme à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Sous-entendu, quel est le premier des 613 commandements que je dois observer? Et comme toujours, le Christ va répondre en se référant à l'Écriture elle-même. Et que va-t-il faire? Il va citer les deux premiers versets du Shema Israël, c'est-à-dire le credo juif, en quelque sorte, puis il va reprendre une citation du livre du Lévitique, bien connu des autorités religieuses. Ainsi, le premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », prescrit en premier lieu le devoir d'aimer Dieu, mais de l'aimer pour lui seul, c'est-à-dire l'aimer à l'exclusion de tout autre que lui, c'est-à-dire de toutes nos idolâtries. Puis Jésus va continuer de guider cet homme en reprenant une citation du livre du Lévitique. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce que dans l'idéal, l'amour de Dieu et du prochain ne devrait ne faire qu'un. Et voilà que le scribe ne peut qu'acquiescer à ce que dit Jésus. « Maître, oui, tu as bien raison de me dire que le Dieu est l'unique et que je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon intelligence, de toute ma force, de toute mon âme. Tout ce qui est possible en moi peut l'aimer et aussi d'aimer mon prochain comme moi-même. » Et aussitôt, Jésus va répondre à travers une formule d'encouragement. Il va lui dire « Oui, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Sous-entendu, continue de vivre ainsi, parce que la clé sera ton bonheur pour toi, pour les autres, ton bonheur en Dieu. Oui, tout était déjà en germe dans la loi d'Israël, mais Jésus viendra, sous les yeux de cet homme, accomplir cette dernière étape de la révélation. Mais pour nous, qui ne sommes plus sous la loi juive, par sa passion, par sa mort et sa résurrection, Jésus va nous donner l'Esprit Saint, afin que nous puissions vivre de cette foi. Et ce ne sera plus pour nous la loi juive, les 613 commandements que les Juifs continuent encore d'appliquer, mais ce sera bien désormais la foi trinitaire, c'est-à-dire en aimant le Père, le Fils et l'Esprit Saint de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre force, de toute notre âme, on pourrait même dire de tout notre être. Et ainsi, comme nous le dit saint Jean, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Oui, Jésus vient de donner à ce scribe une des plus belles définitions du bonheur. Car comme le disait saint Augustin, là où l'amour est roi, l'amour de Dieu nourrira. Voici qu'en ce jour de Toussaint, fête de tous les saints, de la plupart des églises du monde entier vont accueillir peut-être un peu plus de monde que nous avons l'habitude chaque dimanche. Et ils sont nombreux, celles et ceux qui reviennent sur leur terre, leur paroisse d'origine. Et c'est sûrement le cas pour bon nombre d'entre vous. Mais c'est bien à tous que le Christ adresse son message d'espérance pour aujourd'hui. Car cette fête de la Toussaint, c'est bien celle de la victoire. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, tout comme le jour de Pâques. Et par ailleurs, ces deux fêtes sont intimement liées. Rappelons-nous, le jour de Pâques, les amis de Jésus se rendent au tombeau. Et nous, en ce jour de Toussaint, comme pour demain, la fête des défunts, nous avons l'habitude, nous aussi, de nous rendre auprès des tombes de nos défunts. Mais aujourd'hui, comme autrefois pour les disciples, nous entendons cet appel de l'Évangile. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. C'est bien cette bonne nouvelle que nous rapporte le livre de l'Apocalypse. Saint Jean s'adresse à des chrétiens qui connaissent le désarroi. Ils sont déjà affrontés par la persécution et beaucoup d'entre eux sont déjà décédés. On leur avait pourtant annoncé le jour du Seigneur, et voici que rien ne se passe. Ils considèrent cela plutôt comme un échec, en acceptant la souffrance et la mort à venir. Alors, les premiers disciples vont s'interroger, mais où est-il ce jour annoncé? Et c'est pour répondre à cette question que saint Jean écrira son livre sur l'Apocalypse. Pour nous dire que Jésus est ressuscité, il est vivant, et il est bien là, au cœur de nos vies, comme au cœur de nos épreuves. Et tous ces morts que nous pensions disparus, emportés dans la tourmente, sont avec Jésus dans le bonheur de son royaume. Ils ont obtenu la récompense de leur amour et de leur fidélité. Et ce message d'espérance est essentiel pour nous, peut-être au regard de la période que nous traversons, parce que nous avons à accueillir comme un premier appel à réveiller notre foi et surtout à réchauffer notre espérance. Voici que dans la seconde lecture, c'est encore saint Jean qui nous annonce une autre bonne nouvelle. Et c'est comme une confidence que le Seigneur nous fait. « Tu es mon enfant bien-aimé et je t'aime. » Oui, nous le savons, nous sommes enfants de Dieu. Mais savons-nous que nous sommes aimés à ce point? Et ce que nous serons ne paraît pas encore clairement durant notre pèlerinage sur la terre. Mais c'est bien à ce moment-là que nous verrons Dieu tel qu'il est. Et c'est ainsi que voient nos défunts, les défunts de nos familles, tous ceux qui nous sont chers. Vouloir voir Dieu et désormais le contempler dans la gloire. N'est-ce pas cela pour nous une bonne nouvelle? au-delà de la difficulté des deuils que nous avons à assumer. Mais certains pourraient nous dire, comment croire quand on est meurtri par la vie, la solitude, les injustices, la violence. Nous pouvons penser à celles et ceux qui n'ont plus cette espérance. Et même si nous, parfois, nous tombons très bas dans notre vie, nous avons toujours cette assurance que Jésus sera toujours là pour nous relever et nous mettre en route. Et c'est pour cela que l'évangile de ce jour est bien un appel à la joie et à la sainteté, parce que Jésus s'adresse à des gens qui sont rassemblés autour de lui sur la montagne, comme nous, ici à Saint-Antoine. Son message est proclamé dans toutes les églises du monde entier, et il nous rejoint tous, où que nous soyons, présents, parce que nous sommes rassemblés en son nom. Sa présence au milieu de nous est déjà une source de joie et de bonheur. Oui, puisqu'il nous dit « Heureux êtes-vous, vous, les pauvres de cœur ». Voilà peut-être une parole qui va à contresens de ce que l'on peut penser spontanément, et en même temps être heureux. Bien sûr, ce n'est pas être riche et en bonne santé, c'est plutôt agréable si nous le sommes. Et c'est à éviter dans la mesure où nous pouvons, lorsque nous sommes confrontés à la maladie ou à la précarité. Et pourtant, nous voyons bien que les richesses et la santé ne suffiront jamais à nous combler pleinement. Et le seul qui peut vraiment nous rendre heureux, amoureux, eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Et si nous faisons ce pas de plus vers lui, eh bien, nous choisissons la meilleure part. Ainsi, nous serons entièrement disponibles pour accueillir ce salut qu'il veut nous donner. Et si nous pouvons lui donner un peu plus de priorité dans nos vies, et si à cause de lui, nous sommes prêts à vivre ces pas de plus, eh bien là, nous trouverons ce vrai bonheur, ce bonheur que contemplent désormais nos défunts et tous les saints. Et ce chemin, oui, a été suivi par de nombreuses belles figures de l'Église, connues ou inconnues, que nous célébrons ce jour. C'est bien cette foule immense que nul ne peut dénombrer. Et l'Église est fière ce jour de nous montrer toutes celles et ceux qui ont vécu au milieu de l'Évangile et surtout qui ont intégré les valeurs des béatitudes. Pouvons penser à celles et ceux qui ont marqué l'histoire humaine et chrétienne, en premier lieu la Vierge Marie, Saint Joseph, les apôtres, les martyrs d'hier, ceux d'aujourd'hui. Mais finalement, la sainteté, comme nous le rappelle le pape François, n'est pas simplement réservée à quelques élites, ce n'est pas simplement les religieux, les prêtres, les évêques qui ont cet honneur, c'est tous qui seront peut-être les prochains saints de demain. Et j'aimais à dire aux enfants tout à l'heure, peut-être que dans 100 ans, c'est votre portrait qui sera ici, dans cette église. Le pape François nous dit que pour parvenir à cette sainteté, il ne s'agit pas simplement d'accomplir des performances ou des vertus, même des sacrifices. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire, mais cela ne suffit pas pleinement. Il s'agit simplement d'accueillir le Seigneur et, comme nous dit saint François, de nous laisser saisir par lui, aimé de lui, bouleversé par cette rencontre. Oui, pour conclure, cette fête aujourd'hui nous rappelle que tous nous serons peut-être, et je l'espère, les saints de demain. Et peut-être que la tentation serait de nous dire « Mais finalement, cette sainteté, elle est pour les autres, mais elle n'est pas pour moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et c'est bien parce que nous sommes pécheurs que nous sommes appelés à cette sainteté. Au ciel, bien sûr, il y a des saints. Certains ont été des grands pécheurs, mais ils ont su accueillir le pardon de Dieu. Imaginons à saint Pierre, combien de fois a-t-il renié le Christ ? Pensons à saint Paul, qui a persécuté les premiers chrétiens. Pensons à saint François et son rêve de gloire. Pouvons penser aussi, je la cite, mais comme bien d'autres, à Thérèse qui, au milieu du cœur de sa nuit de la foi, a supposé des gestes d'amour à chaque instant, à chaque souffle. Simplement le fait de chercher cette rencontre avec le Christ, de vouloir l'aimer, cela suffit à nous mettre en route vers ce chemin de sainteté. Alors en communion avec tous les chrétiens, où qu'ils soient de par le monde, eh bien nous aussi, en ce lieu, fondé par saint Antoine lui-même, voici 8 siècles. Oui, Seigneur, nous te louons, et tous ensemble nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Amen.